La Panacée, une émission qui vous veut du bien. La Panacée, une émission contre tous les maux. Bonjour et bienvenue dans l'émission de La Panacée sur Radio Escapade. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, dans cette émission, nous aimons aborder des questions de santé et de science. Nous ne sommes pas médecins, mais nous partageons notre culture générale du vivant. Et cette semaine, avec Fab, nous vous proposons de parler des moyens que possède notre corps pour éliminer déchets et toxiques. Et comme il vaut mieux prévenir que guérir, il est couramment conseillé d'éliminer régulièrement tout ce qui encrasse notre corps pour optimiser notre santé. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui.
Malika, Cécile, commençons par la base. Qu'est-ce qu'on appelle toxine ou toxique ?
Alors, par nos modes de vie actuels, nous sommes quotidiennement exposés à des molécules toxiques pour la cellule et potentiellement néfastes pour l'organisme. Celles-ci peuvent être divisées en deux catégories. Il y a les toxiques et les toxines. Selon leur origine, elles vont avoir un nom différent. Les toxines sont des déchets fabriqués par le corps. On parle d'origine endogène. À l'inverse, les toxiques sont des substances d'origine exogène, c'est-à-dire extérieures au corps, et liées à notre environnement. Ces substances exogènes peuvent être ingérées, et dans ce cas-là, il va y avoir 100% d'assimilation, d'absorption, donc ça va être sûrement par l'alimentation. Elles peuvent être inhalées, donc dans ce cas-là, on aura 60% de passage dans le corps. Et parfois, elles peuvent pénétrer l'organisme via un contact avec la peau. Et dans ce cas-là, on estime en toxicologie qu'il y a environ 10% qui va passer la barrière cutanée.
Si je comprends bien, on différencie les toxines des toxiques. Et que peux-tu nous dire sur les toxines ?
Alors, les toxines sont généralement des déchets issus du fonctionnement et du métabolisme normal des cellules. Les toxines deviennent dangereuses pour la santé lorsqu'elles se sont trop accumulées, provoquant alors des dégâts cellulaires. Cette intoxination, on parle d'encrassage en naturopathie, est due à une surproduction de toxines et ou à un dépassement des mécanismes d'élimination du corps. Ces mécanismes d'élimination sont réalisés par différents émonctoires. Et donc ces émonctoires sont de grands nettoyeurs. Les plus importants vont être le foie, les intestins et les reins. Et dans une moindre mesure, mais quand même non négligeable, il y aura la peau, les poumons et l'utérus pour les femmes en âge de procréer. De nombreux facteurs peuvent être à l'origine de l'accumulation de toxines. Il y a les excès alimentaires, donc à l'approche de Noël, ça peut parler à beaucoup. Les excès alimentaires avec sucreries, fritures, il y a les additifs très nombreux dans les plats préparés, les excès de viande et de produits laitiers. C'est pourquoi les ajustements alimentaires sont souvent la première brique du travail en naturopathie. Il y a également les dysbioses, on en a parlé dans d'autres émissions. En effet, certains micro-organismes qui vont être présents dans notre flore buccale, intestinale ou vaginale vont être capables de produire des toxines. Ces toxines vont être des foyers bactériens dentaires, il va y avoir des parasites, des bactéries intestinales, et en fait, ces toxines produites par ces micro-organismes vont passer dans le corps, vont être là et vont s'accumuler si le corps ne peut pas les éliminer. Il y a aussi les toxines qui peuvent être liées à des déchets de recyclage ou d'inflammation, c'est-à-dire que notre corps recycle en permanence des choses qu'il peut réutiliser, ou lorsqu'il y a des dégradations, il peut y avoir des processus d'inflammation pour appeler certains agents du corps à venir réparer ou agir. Eh bien, ces processus-là, lorsqu'ils ne sont pas complets, ils peuvent créer des déchets. Et donc là aussi, si ces déchets s'accumulent, on va les considérer comme des toxines.
Malika, Cécile, maintenant, que peux-tu nous dire sur les toxiques ?
Alors, les toxiques sont des molécules étrangères au corps et elles sont désignées souvent par le terme xénobiotiques. Elles peuvent être d'origine naturelle, comme certains groupes de drogues, de champignons ou de plantes, mais aussi d'origine synthétique, comme les médicaments, divers polluants de notre environnement, les pesticides, etc. Donc dans la liste vraiment non exhaustive des toxiques que vous pouvez rencontrer dans votre quotidien, il va y avoir donc les additifs alimentaires, souvent nombreux dans les plats tout préparés, conservateurs, colorants, mais ça peut être aussi des antibiotiques ou des hormones qui sont délivrés aux animaux d'élevage industriel. Et donc, en les consommant, vous en ingurgitez aussi. Et autre chose, une autre chose à laquelle on ne pense pas forcément, c'est la cuisson à haute température de certains aliments qui va conduire à la formation de composés toxiques. On va penser aux molécules de Maillard ou aux amines hétérocycliques. Et donc, c'est souvent le petit croustillant ou le grillé que beaucoup adorent, en fait. Et bien ça, c'est pas forcément très bon pour la santé. Dans les toxiques, il y a aussi le tabac, l'alcool, qui vont être cités, certains médicaments, certains cosmétiques, pardon. Il y a divers polluants présents dans l'air, dans l'eau, qui peuvent être issus aussi dans l'environnement de travail, avec les solvants, les pesticides, les herbicides, les détergents, les gaz d'échappement, etc. On pourrait ajouter à cette liste les ondes électromagnétiques auxquelles nous sommes de plus en plus exposés, et souvent malgré nous, avec les lignes à haute tension, le Wi-Fi, la 5G qui se déploie. Et j'en profite pour inciter chacun à couper son Wi-Fi la nuit, parce que c'est déjà ça qu'on peut réduire en termes d'exposition.
On entend souvent parler de détox ou de drainage. La détox est devenue un argument marketing. Existe-t-il une différence entre ce qu'on appelle détox et le drainage ?
Oui. Alors avant tout, il s'agit de comprendre le fonctionnement de notre organisme qui est une véritable usine à réactions chimiques que l'on regroupe sur le terme de métabolisme. En simplifiant, ce qui entre dans notre corps, que ce soit par le système digestif, respiratoire ou cutané, ainsi que nos émotions, tout ça doit être traité. La détoxication est une méthode naturelle de protection de nos fonctions vitales qui contribue à éliminer les toxines nocives des cellules et des tissus, de façon à recouvrer des fonctions normales. C'est ce que le corps peut faire et fait chaque jour de façon naturelle. Vous comprenez donc toute l'importance d'une hygiène de vie au quotidien qui soit de qualité, avec une alimentation dite hypotoxique, une gestion correcte de ses émotions, et bien sûr du mouvement, de la respiration et un sommeil réparateur. Car c'est là la base pour ne pas surcharger notre organisme de travail de nettoyage. Cette détox peut être soutenue par la micronutrition ou ce qu'on appelle aussi la nutrition fonctionnelle. Le drainage, quant à lui, consiste à transporter les toxines en dehors du corps, à l'aide des différents émonctoires, donc on a déjà cité tout à l'heure, le foie, les reins, les intestins, poumons, peau, et pour les femmes, l'utérus. Le drainage est donc une base fondamentale pour nettoyer notre corps au printemps, comme nous le faisons aussi dans nos maisons au beau jour. Il peut être soutenu par l'utilisation de certaines plantes qui vont augmenter finalement ce transport de toxines. Ça peut être aussi fait avec des massages, des drainages lymphatiques, des techniques comme le sauna ou le hammam. Ce qu'il faut retenir, c'est que face aux toxines et aux toxiques auxquels notre corps est exposé, il possède des outils pour se nettoyer et se régénérer. Comment va-t-il choisir dans sa boîte à outils ? Cela va notamment dépendre de l'affinité des toxiques pour l'eau ou le gras. Mais ça, on en parle après une pause musicale avec Bonga.
Aluke nungolo fwa kamu bingi kiaze Mwene wando kala benyaba Eme ngondo ya mye Namona mwenye Niswe ya weza Mona mwenye Kalunga mumba Mona mwenye Niswe ya weza Mona mwenye Aluke nungola fwa Gamu bingi kiaze Mwenye wando kala benyaba Eme ngondo ya mye Mona mwenye Sweya weza Mona mwenye Kanunga ngumba Mona mwenye Sweya weza Mona mwenye Kanunga ngumba Aluke nungola fwa Gamu bingi kiaze Mwene wando kala benyaba Eme ngondo ya nye Mona mwenye Sweya ya weza Mona mwenye Kalunga mwema Sambi wangi pana mona Kamu valele Mwene wando kala benyaba Eme ngondo ya nye Mona mwenye Ngangumba Mona mwenye Sweya weza Mona mwenye Sweya weza Mona mwenye Kalunga ngumba Zambi wangi pana mona Ngamu falele Mwanyeze wando kala benyaba Eme ngondo ya mye mwenye Mona mwenye Sweya weza Mona mwenye Kalunga ngumba Mona mwenye Sweya weza Mona mwenye Kalunga ngumba Aluke nungola fwa Gamu bingi kiaze Mwene wando kala benyaba Eme ngondo ya mye Mona mwenye Sweya weza Mona mwenye Kalunga ngumba Zambi wangi pana mona Gamu valele Mwenye wando kala benyaba Eme ngondo ya nye Mona mwenye Sweya weza Mona mwenye Kalunga ngumba Mona mwenye Sweya weza Mona mwenye Mona mwenye Sweya weza Mona mwenye Kalunga ngumba Zambi wangi pana mona Kamu valele Mwanyeze wando kala benyaba Eme ngondo ya mye Mona mwenye Sweya weza Mona mwenye Kalunga ngumba Mona mwenye Sweya weza Mona mwenye Kalunga ngumba Mona mwenye Sweya weza Mona mwenye Kalunga ngumba
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur Radio Escapade pour la suite de l'émission de La Panacée, une émission qui vous veut du bien. Aujourd'hui, avec Fab, nous parlons des moyens que possède notre corps pour se nettoyer.
Justement, Malika Cécile, comment se déroule la détox du foie ?
Alors, la détoxication est une activité métabolique qui permet au corps de transformer une substance toxique en un dérivé capable d'être éliminé par les matières fécales ou les urines. Cette détoxication, bien que réalisée également par les cellules intestinales et rénales, est assurée en grande partie par les cellules du foie, que l'on appelle les hépatocytes. La première chose à savoir, c'est que la plupart des molécules toxiques sont liposolubles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elles sont solubles dans les graisses. Pour cette raison, elles ne peuvent pas être transportées telles quelles par le sang, puisqu'il faudrait qu'elles soient solubles dans l'eau. Si le foie n'a pas pu les éliminer, ces toxiques lipophiles auront tendance à être stockés dans les tissus adipeux, les graisses de notre corps. Le but de la détoxication hépatique est donc de rendre hydrosolubles, solubles dans l'eau, ces toxiques pour pouvoir les transporter via le sang et ensuite les éliminer par les urines ou les selles. On distingue trois phases dans la détoxication hépatique. L'activation, la conjugaison et l'élimination. Précisons donc la première phase qui est celle de l'activation. Au cours de cette première étape, les toxiques liposolubles sont transformés en dérivés oxydés. Pour ce faire, différentes réactions sont possibles. Oxydation, réduction, hydrolyse par le biais d'enzymes, connues sous le nom cytochrome P450. Et le saviez-vous, ces cytochromes P450 constituent tout un système enzymatique qui transforme notamment près de 80% des médicaments. Ils sont donc souvent impliqués dans les interactions médicamenteuses. Mais revenons à nos moutons. Les toxiques sont donc d'abord oxydés, mais cela les rend instables. Et s'ils ne sont pas transformés rapidement, ils deviennent alors une source de stress oxydatif, parfois même plus toxique et nocif que les molécules initiales. La phase 1 va donc également solliciter des systèmes de protection antioxydante. Et c'est là que le fameux glutathion antioxydant majeur va intervenir. Par ailleurs, l'activation des enzymes cytochromes nécessite des cofacteurs, catalyseurs importants comme les vitamines du groupe B et certains éléments, magnésium, zinc, manganèse, cobalt, molybdène, cuivre ou chrome. Et pour cette raison, toute carence risque d'impacter la capacité de détox du corps. D'où l'intérêt de ce que l'on appelle la micronutrition fonctionnelle qui permet d'apporter au corps ce dont il a besoin pour fonctionner de façon idéale. Voyons l'étape 2 de la détox du foie, celle que l'on appelle la phase de conjugaison. Donc, on a les dérivés qui ont été oxydés lors de l'activation. Et bien là, ils vont avoir une réaction de conjugaison. Ces réactions correspondent à la fixation sur la molécule d'un groupe hydrophile qui va rendre l'ensemble soluble dans l'eau. Quelques exemples de noms barbares, si l'on ajoute un produit soufré, dont le principal est le glutathion, on va parler de sulfoconjugaison. La glucuronoconjugaison fait intervenir l'acide glucuronique synthétisé à partir du glucose. Je vous parle de ces composés parce que c'est ceux que l'on retrouve souvent en micronutrition fonctionnelle lorsque l'on prend des compléments alimentaires. Je m'arrête là puisque la liste peut être encore longue, mais retenez que les enzymes de conjugaison ont besoin encore une fois des vitamines du groupe B et d'oligo-éléments pour pouvoir faire leur boulot. Donc toute carence micronutritionnelle est à éviter. Enfin, voyons la dernière étape dite d'élimination des toxiques. Parce qu'une fois neutralisées, les molécules toxiques quittent le foie pour être éliminées par les urines si elles sont hydrosolubles ou par la bile en cas d'hydrophobie.
Comme tu nous l'as dit à plusieurs reprises, l'intestin est un nettoyeur de l'organisme. Peux-tu nous donner des précisions sur son entretien ?
Oui, parce qu'il n'y a pas que le foie, il y a aussi l'intestin et d'autres organes émonctoires qui sont importants dans la détox. Alors, pour l'intestin, il existe de nombreuses techniques connues dans différentes cultures et qui traversent les âges. Il y a par exemple celle de l'irrigation ou hydrothérapie du côlon, qui est beaucoup utilisée par les personnes qui font du jeûne. Et donc, ces grands lavements ont été préconisés par exemple par les docteurs Kousmine et Norman Walker. L'irrigation colonique vise à un nettoyage du gros intestin sur toute sa longueur. Ce qui est différent des lavements classiques qui peuvent être faits de façon autonome et chez soi, puisque là, on visera uniquement la première partie du côlon dans le nettoyage. La réalisation de l'irrigation colonique requiert une préparation alimentaire, puisqu'il y a un jeûne de 3 jours qui précède. Ou au moins la veille, le jour même et le lendemain. Ça aussi, ça peut se faire. Et il y a un praticien de santé qui va être là pour manier un appareil qui va injecter pendant environ 80 à 100 litres d'eau propre pendant une quarantaine de minutes. Et ensuite, les matières fécales vont être évacuées et observées pour voir si il y a des éléments d'appréciation sur le fonctionnement intestinal. Alors, quel est l'intérêt de ce genre de pratique ? Et bien, finalement, le lavement va ramollir les selles qui ont séché et qui se sont empaquetées dans l'intestin. Ça va permettre leur évacuation et donc du coup, on va pouvoir avoir de nouveau un intestin qui fonctionne bien, qui est propre, et on évite de garder des toxiques, des toxines et des déchets dans l'organisme. Et il est tout à fait possible pour des personnes d'aller à la selle tous les jours et pourtant d'avoir un intestin encrassé. Donc ça, je le précise. L'irrigation colonique n'est pas conseillée à tout le monde puisque elle va être contre-indiquée au cours des 3 semaines qui suivent une intervention chirurgicale, quand il y a une grossesse, s'il y a des troubles cardiaques, une hypertension artérielle qui est mal contrôlée, de l'insuffisance rénale à un stade terminal, de ce qu'on appelle les rectocoliques hémorragiques actives, des nécroses coliques suite à une radiothérapie. Autre méthode pour l'intestin, donc certains hygiénistes proposent de prendre des laxatifs naturels pour nettoyer l'intestin. Personnellement, je trouve que ces méthodes sont quand même vraiment épuisantes et c'est pas évident à mettre en œuvre dans le quotidien. Donc voilà, mais ça existe et certains le font, donc c'est bien de le citer. Par ailleurs, il y a aussi des méthodes beaucoup moins radicales mais efficaces aussi pour favoriser la restauration de la muqueuse intestinale et faire du nettoyage. En phytothérapie, on pensera à la Boswellia serrata ou au gel d'aloe vera. Donc sur des cures de 2 mois, on peut aussi utiliser l'argile verte. Pour restaurer la flore intestinale, on peut consommer des aliments lacto-fermentés tels que kéfir, choucroute et compagnie. Et pour que la cure que vous faites sur votre intestin montre des effets durables, eh bien c'est important de bien mastiquer et en saliver les aliments que vous mangez.
Certaines personnes aiment utiliser l'homéopathie pour leur santé, notamment en détox. Existe-t-il des données à ce sujet ?
Alors sur ce sujet-là, je ne vais rien apprendre à personne en rappelant que l'usage de l'homéopathie ne fait pas l'unanimité, mais plutôt débat. D'ailleurs, elle n'est plus remboursée par la Sécurité sociale depuis quelques années. Mais bon, revenons à nos moutons. L'objet, ce n'est pas de sortir toutes les études concernant l'homéopathie, mais simplement de dire comment elle est utilisée aujourd'hui pour faire une détox. Les médecins homéopathes peuvent proposer différents protocoles homéo suite à un traitement médicamenteux, ou après une exposition aiguë à un toxique. On va avoir par exemple le remède Nux Vomica, qui est très utilisé puisqu'il agit sur le foie, qui est la principale voie d'élimination des toxiques. La posologie habituellement donnée est une dose de 9 CH le premier jour, à jeun ou au coucher, une dose 12 CH le jour suivant, une dose 15 CH le troisième jour, et une dose 30 CH le quatrième jour, avec une dose de rappel 30 CH le 18e jour. Donc ces protocoles sont simples, mais ils nécessitent vraiment d'être organisés, puisqu'il faut penser chaque jour, puis 18 jours plus tard, à prendre la dose. Là aujourd'hui, on a quand même pas mal d'outils. On peut se mettre un rappel sur le téléphone ou se le mettre sur le calendrier pour pas oublier. Par ailleurs, en complément, il est indiqué d'associer à ce premier protocole homéopathique un autre identique en termes de dilution, donc les 9CH, 12CH, 15CH et 30CH. Mais on ajoute en plus le toxique auquel on a été exposé et dont on veut se débarrasser. C'est pas toujours évident de trouver ces réalisations homéopathiques. Donc parfois, il faut faire des commandes à l'étranger puisqu'on ne les trouve pas forcément en France.
Malika Cécile, peux-tu nous indiquer d'autres méthodes de décrassage ?
Elles sont nombreuses. En naturopathie, nous, on pioche dans une dizaine de techniques qu'on met un petit peu à notre sauce au cas par cas. Donc là, je vais vous en donner quelques-unes. Vous pouvez augmenter votre activité physique. Pourquoi ? Parce que tous vos fluides vont circuler davantage dans votre corps, passer par les organes filtres, qu'on appelle les émonctoires, et donc ça va favoriser le décrassage. Donc le mouvement, faire de l'exercice qui fait suer, qui essouffle, ça c'est une très bonne façon de le faire. On peut aussi pratiquer le hammam ou le sauna, ce qui va permettre d'activer l'élimination par la peau. Dans la même catégorie, on peut aussi ajouter le brossage à sec. Vous connaissez peut-être le drainage lymphatique manuel qui va permettre de drainer mécaniquement la lymphe vers la sortie, c'est-à-dire les veines sous-clavières. Et ensuite, une fois que les déchets de la lymphe repassent dans le sang, ils sont filtrés par les reins et éliminés dans les urines. Donc le drainage lymphatique, c'est un peu comme faire un gros nettoyage de printemps. On en a parlé précédemment, mais la micronutrition fonctionnelle permet de donner au corps ce dont il a besoin pour fonctionner de façon optimale. Ça inclut le nettoyage. Et en fonction du travail que l'on souhaite faire, on peut y associer certaines plantes drainantes. Donc rien n'empêche de faire de la détox et du drainage. Par contre, autant la détox peut revitaliser, autant le drainage peut fatiguer. Donc on le fait toujours sur des durées qui sont vraiment déterminées, parfois courtes en fonction de notre état de santé. Et donc on va associer finalement ces différentes techniques pour améliorer, optimiser le décrassage. Alors, à l'approche des fêtes, mon discours va être complètement en décalage, probablement, mais il faut aussi avoir en tête que beaucoup d'encrassement vient des excès alimentaires réguliers. C'est pas parce qu'on fait un repas de Noël que notre corps est encrassé, mais le fait de manger des plats préparés en excès, le fait d'avoir des aliments qui sont pauvre nutritivement, etc., bon, bah, tout ça, ça va encrasser. Et donc, avant de vouloir forcer le corps à nettoyer plus, on peut aussi envisager de limiter les excès alimentaires, surtout de mauvaise qualité. Voilà, j'espère que vous êtes motivés pour un grand coup de nettoyage, mais attendez quand même la fin des fêtes pour éviter toute frustration. C'était Malika, Cécile et Fab pour l'émission de La Panacée sur Radio Escapade. La Panacée, une émission qui vous veut du bien. La Panacée, une émission contre tous les maux.